Et voilà en quoi j'ai radicalement changé en 1968. Avec d'autres, je criais « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ». Et puis j'ai pris peu à peu conscience que ce vieux monde n'était pas oppressif, n'était pas pesant, n'était pas coercitif, mais qu'il était au contraire, justement, pour parler comme c'est une maladie fragile, et qu'il nous incombait. Et c'est ça, la civilisation aussi, un passé qui nous incombe.
Alain Finkielkraut, bonjour.
Bonjour.
Philosophe et académicien, vous êtes une voix connue et reconnue de la vie intellectuelle française. Vous avez accepté de faire partie du comité scientifique de la revue Civilisation et c'est pour nous un très grand honneur. Vous avez également accepté d'inaugurer une série de grands entretiens que nous réaliserons avec des penseurs d'aujourd'hui. Et vous venez nous parler aujourd'hui de votre vision de la civilisation. Civilisation donc est le nom de notre revue. Je voudrais simplement vous demander, qu'est-ce qu'une civilisation pour vous? Qu'est-ce que la civilisation? Et y a-t-il une différence entre les deux termes?
Oui, il y a une différence. La civilisation, commençons par là. Je vous donnerai un exemple trivial, vous me pardonnerez. Le football tient une place très importante dans nos vies. L'équipe de Lens a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe de France. Cette équipe a un budget relativement modeste et elle a été accueillie triomphalement à Lens par une foule en liesse. L'un des participants à cette manifestation a dit les larmes aux yeux « Mon grand-père était mineur, j'aurais voulu qu'il connaisse ce moment. » La civilisation, encore. Au lendemain, ou le soir même d'ailleurs, de la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Paris Saint-Germain, une foule violente s'est déchaînée. Destruction, insultes, assaut contre la police, tirs de mortier, jets de pavés, insultes, nique la France, ou encore Free Palestine. La décivilisation, le contraire de la civilisation, la sauvagerie pure. Donc la civilisation, c'est l'existence d'un surmoi collectif. On se contient, on ne laisse pas libre cours à ces pulsions les plus primitives. Et j'ai choisi le sport parce que le sport, ça a été longtemps l'imposition d'une forme. Et ça l'est de moins en moins jusque, d'ailleurs, lors des compétitions sportives. Le sport le plus civilisé, c'était le tennis. Et l'on voit maintenant des joueurs qui insultent l'arbitre, qui s'allongent par terre quand ils ont remporté le match ou le set, et aussi, ce qui me choque énormément, qui encourage la foule à applaudir quand ils ont fait un bon coup. On voit aussi des joueurs de foot faire la même chose, se tourner vers les 30 000, les 50 000 spectateurs, faire ce grand geste, applaudissez. C'est-à-dire là, on voit par contre-coup ce qu'est la civilisation, l'imposition d'une forme. Une civilisation, c'est la même chose et c'est plus précis. C'est-à-dire, oui, il existe par exemple une civilisation française. Alors, Simplement, je ne saurais pas forcément la définir. Je saurais, ou si je, plutôt que la définir, je choisirais l'énumération. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon livre « Le cœur lourd ». J'aurais l'outrecuidance de me citer, ce qui n'est déjà pas tout à fait civilisé, mais bon.
Le cœur lourd, conversation avec Vincent Trémollet-Duvillers, qui vient de paraître chez Gallimard.
Voilà. Et je dis ceci, je suis français par la montagne Sainte-Victoire, la basilique de Vézelay, l'église romane de Saint-Léon-sur-Vézère, les paysages de Dordogne, le col du Ventoux, les vaches normandes, le cimetière de Lourmarin où repose Albert Camus, mais aussi par la place de la Concorde, illuminée la nuit parce que ma mère, née en Galicie, criait son enthousiasme chaque fois qu'elle la traversait en voiture et que mon père se moquait gentiment d'elle. Alors voilà. Mais j'ajouterais que la civilisation française, c'est aussi, évidemment, ou peut-être surtout, la langue française. Cette langue. Et cette langue est aujourd'hui en péril. Le philosophe Robert Redeker dit la langue française a disparu de notre paysage auditif. Une autre langue se fait passer pour elle. Et c'est vrai de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai apporté aujourd'hui un livre qui est tout à fait dans notre sujet, mais dont la simple mention peut agacer certains spectateurs. Des civilisations de Renaud Camus. Des civilisations. Et il parle de la répudiation de la syntaxe comme instance de régulation du discours. Et il donne deux exemples. Il est normal qu'il y ait une inquiétude allemande sur quel doit être son rôle dans le monde. Voilà une phrase entendue à la radio. Ou bien certains qui estiment que le débat doit porter d'abord sur à quel niveau intervenir. Voilà comment on s'exprime sur les ondes, et quelquefois sur des chaînes culturelles. Donc là, effectivement, la civilisation française existe, nous en sommes les héritiers, il nous incombe de la respecter, de la transmettre, et il n'est pas sûr que nous sachions résister à ce qui se passe aujourd'hui, notamment l'effondrement de la langue française. Et je dirais justement que mon patriotisme procède de cette inquiétude. Lorsque j'étais jeune, la France ne signifiait rien de spécial pour moi. C'était pas une identité, c'était une carte d'identité. J'étais spontanément universaliste. Alors, quand j'étais de gauche ou d'extrême gauche, le paradigme, c'était capitalisme, communisme, disons. Ensuite, j'ai ouvert les yeux, mais le paradigme qui l'a remplacé, c'était totalitarisme, démocratie. Il n'y a pas de place pour la nation. Il n'y a pas de place pour la nation. Il n'y a pas de place pour la civilisation française. Ça ne signifie rien à mes yeux. Et j'ai été saisi par ce que Simone Veil appelle le patriotisme de compassion. Un livre d'elle, publié après sa mort, par Albert Camus, L'Enracinement. Albert Camus est allé se recueillir avant de s'envoler pour Stockholm, recevoir le prix Nobel, dans la chambre de Simone Veil, gardée intacte par ses parents. Et c'est lui qui a choisi le titre, L'Enracinement. ça qui est très intéressant. Et elle parle d'un patriotisme de compassion, la tendresse pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Voilà ce qu'est la France pour moi, et voilà en quoi j'ai radicalement changé en 1968, avec d'autres. Je criais « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi !» Et puis j'ai pris peu à peu conscience que ce vieux monde n'était pas oppressif, n'était pas pesant, n'était pas coercitif, mais qu'il était au contraire, justement, pour parler comme s'il m'allait, fragile, et qu'il nous incombait. Et c'est ça, la civilisation aussi. Un passé qui nous incombe.
Alors, quelle différence faites-vous entre la civilisation française et la civilisation occidentale ?
Alors, un détour pour vous répondre. Je pense que la civilisation française est partie prenante de la civilisation occidentale. Mais c'est une langue particulière. Mais justement, là, je voudrais vous citer Milan Kundera. 1983, novembre 1983, Kundera publie dans Le Débat un article qui a énormément compté pour moi, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Ce titre a fait vaciller tous mes repères. La tragédie de l'Europe centrale. Ce terme avait disparu du vocabulaire. On parlait d'Europe de l'Est. On avait accepté, sans s'en rendre compte, le partage de Yalta. Il y avait une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est. Et Kundera nous dit, non. La Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie n'ont jamais fait partie de l'Europe de l'Est. C'est l'Europe centrale. Et un Occident kidnappé, c'est un oxymore pour nous. L'Occident, c'est par excellence la puissance. Et tout d'un coup, il y a un accident précaire. Un accident, en plus, qui pouvait être occupé, qui pouvait être, justement, enlevé, kidnappé. Et d'ailleurs, le mot « identité », je l'ai découvert chez Kundera. C'est lui qui parle de l'identité de ces nations. Et cette identité qui se confond avec leur occidentalité. Voilà. Et on dit souvent aujourd'hui, l'identité, c'est le repli identitaire. L'identité, c'est le refus de l'autre. Ben non, mais quelquefois, l'autre peut avoir la figure de l'ennemi, l'autre peut vous envahir, et l'identité, c'est ce qui vous appartient et en même temps vous incombe. Mais Kundera va plus loin dans ce texte extraordinaire. Il se demande ce que c'est que l'Europe. Il dit, voilà, au Moyen-Âge, il y avait déjà une Europe, mais son identité, son unité reposait sur la religion. Et puis, Dieu s'est absenté. Deus absconditus. Alors c'était quoi l'Europe après ? Sur quoi reposait l'unité européenne ? Et Kundera dit avec la merveilleuse simplicité qui le caractérise, c'était la culture. La culture. Voilà. C'est dans la culture que l'Europe se reconnaissait et qu'elle s'identifiait. Et il s'inquiète dans ce livre, dans cet article, pardon. Il dit, mais la religion a cédé la place et peut-être qu'aujourd'hui, la culture cède la place. Cette question m'a poursuivi depuis que j'ai lu ce livre. Et j'ai essayé de répondre dans La défaite de la pensée, publié déjà il y a longtemps, je suis un vieil homme, 1987. Et j'ai dit, c'est le crime parfait. La culture cède la place au culturel, au tout culturel. La culture se dissout dans quelque chose qui porte le même nom, pour des raisons que nous pourrons examiner. Mais c'était ça, pour moi, à travers Kundera, l'Europe.
Alors finalement, en défendant la culture, ce que Kundera appelait les petites nations, défendaient aussi leur liberté. Et je voulais qu'on aborde ensemble ce thème de la liberté, puisque c'est la devise que nous avons choisie pour notre revue, et réveiller le monde libre. Nous pensons que la liberté, dans tous les domaines, qui est comprise non pas comme la capacité à faire ce que l'on veut, mais comme l'autonomie responsable de l'individu et de la société civile, est un héritage de notre civilisation. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bien sûr. Alors un mot avant de vous répondre sur les petites nations. Kundera emploie pour la première fois cette expression dans l'article « Un accident kidnappé, la tragédie de Rome centrale ». Il dit « c'est pas géographique, c'est pas géographique ». La petite nation, c'est une nation dont l'existence elle-même est en question. Et il cite le premier vers de l'hymne polonais. La Pologne n'a pas encore péri. Il nous dit, la France pourrait pas avoir un hymne pareil, ni l'Espagne, ni l'Angleterre. Mais c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. La France est devenue une petite nation. Et c'est vrai, elle n'a pas encore péri. Fermons les yeux et demandons-nous, que sera la France dans 50 ans? Et a fortiori dans 100 ans. Qu'en restera-t-il avec l'immense changement démographique et avec aussi la crise peut-être terminale de la transmission et l'effondrement de la langue française? Donc voilà, petite nation, c'est devenu notre sort à nous aussi. Liberté, bien sûr. Liberté, la liberté et l'égalité sont des principes fondamentaux. Mais vous savez, Chesterton disait « Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. » Je pense que le monde est plein aussi d'idées démocratiques devenues folles. Première idée démocratique devenue folle, l'égalité. Elle est sortie de son lit. Elle est en train de tout détruire, l'égalité, notamment la culture. Parce que il est admis aujourd'hui que rien n'est supérieur à rien. Et si rien n'est supérieur à rien, nulle des symétries ne vaut. L'école n'est plus une institution, mais une communauté éducative. Et il est admis aussi que toute distinction et discriminatoire, notamment la distinction entre l'autochtone et l'étranger. Voilà. Si vous faites cette distinction, vous tombez dans le racisme. Mais sans cette distinction, la nation n'existe plus. Si, au nom de l'égalité, on promeut l'hospitalité inconditionnelle, on entre dans un monde sans repère, sans signification et sans communauté de caractère ou communauté de destin. C'est ainsi que Otto Bauer et les socialistes austro-allemands définissaient la nation. Et il peut en aller de même de la liberté. La liberté, elle va de pair avec la responsabilité. Et la liberté, c'est aussi le fait d'exercer dans une nation l'activité et le pouvoir du citoyen. Une liberté d'ailleurs que Tocqueville prisait par-dessus tout. Et Tocqueville allait jusqu'à dire qu'en 89, la France donnait un spectacle extraordinaire. Tout le monde était préoccupé du bien commun. Et il se méfiait, justement, de l'individualisme démocratique, c'est-à-dire d'une liberté réduite à l'indépendance, dans l'indifférence au destin de la nation. Et je me souviens, dans les années 80, la redécouverte de Tocqueville avait donné lieu à un contresens. Contresens de certains sociologues que j'ai appelés en m'amusant les sociologues du débat, Gilles Lipovetsky, Paul Yonnet, parrainés à l'époque par Marcel Gauchet, qui célébraient toutes les formes de la culture de masse et de la consommation au nom de l'individualisme démocratique. Yonnet a changé. Il a écrit « Voyage au cœur du malaise français », dénonçant déjà les dangers d'un antiracisme purement idéologique. Et il a d'ailleurs payé très cher ce courage intellectuel qui a été le sien. Oui, alors simplement, la liberté aussi peut perdre cet ancrage politique, cet ancrage citoyen qui est indispensable.
Alors, justement, n'est-ce pas ce qui s'est passé en partie depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin? Et je voulais, pour commencer, vous poser une question un peu personnelle. En 1989, vous aviez 40 ans, je crois.
Exactement.
Quels sont vos souvenirs de cette période, quand le mur de Berlin est tombé? Ça devait être extraordinaire.
Ah, la chute du mur de Berlin, bien sûr. C'était un moment prodigieux. Il était déjà tombé dans nos têtes. Il faut le savoir. Nous avions été, notamment les intellectuels, nous avions été ébranlés par la parole des dissidents et la parole de certains grands penseurs d'Europe centrale et aussi de Russie. Kundera, Miłosz, Kazimir Brandis, Solzhenitsyn. Donc, l'illusion totalitaire avait été dissipée. Mais quand même, le soviétisme régnait et nous l'avons vu s'écrouler. Nous avons vu tomber le mur, nous avons vu le concert donné par Rostropovitch au pied de ce mur. C'était un moment fabuleux, si vous voulez. Ce qu'on avait cru longtemps éternel, eh bien, se révélait historique et même friable. Donc, je me souviens de ma joie, je me souviens d'avoir célébré ce moment, mais dans les têtes, ce moment n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que la dissipation de l'illusion totalitaire a rendu possible en France, pendant un certain temps, le retour à la conversation civique. Et d'ailleurs, en 1980, vous voyez, 9 ans avant la chute du mur, en janvier 80, Pierre Nora publie le premier numéro de sa revue Le Débat, le jour même de la mort de Sartre. Et Sartre, ce n'était pas le débat, c'était le combat. C'était la guerre comme modèle de la confrontation. C'est-à-dire que c'était le renversement de la formule de Clausewitz. La politique et la guerre poursuivie par d'autres moyens. La politique, c'est-à-dire la lutte de classe, l'exploiteur et l'exploité. On ne discute pas avec l'exploiteur. On essaye d'en finir avec lui. Et les choses changent quand même à partir du début des années 80. La conversation civique reprend ses droits. Paul-Louis Landsberg, penseur oublié aujourd'hui, redevient, sans qu'on le sache vraiment, d'actualité. C'était un émigré d'Allemagne dans les années 30 et il avait publié dans la revue Esprit un article sur l'engagement et définissait l'engagement comme la décision pour une cause imparfaite. Personne n'était le dépositaire de la vérité ultime. On avait besoin des autres pour penser mieux. Le désaccord était fertile. Et je me souviens, par exemple, que Jean-Marie Borzex, le directeur de France Culture qui m'avait invité à faire l'émission Réplique, avait créé tous les étés, des rencontres, les rencontres de Pétrarque, en juillet. c'était à Montpellier. Mmh. Voilà, c'était à Montpellier. Et donc, j'y allais et j'ai rencontré là Philippe Reynaud, Pierre Manant et d'autres. Et ça discutait dans tous les coins. La première rencontre, c'était des revues. Il y avait le débat, il y avait commentaires, il y avait esprit, etc. Tout le monde discutait avec une espèce de ferveur extraordinaire. On avait réussi à réconcilier la ferveur et la finitude. Voilà, c'était ça, la ferveur et la finitude. Et ça, cette période s'est close en 2002, brutalement, avec la parution de l'opuscule de Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, enquête sur le niveau réactionnaire, opuscule commandité par Pierre Rosanvallon, qui était alors professeur au Collège de France. Cet opuscule renouait avec la liste noire. Voilà. On dressait la liste des intellectuels coupables de faire le procès de la culture de masse, donc voilà, du droit de l'homisme, et aussi de l'islam. Première dénonciation de l'islamophobie. Et ces intellectuels, on ne pouvait pas parler avec eux, d'ailleurs, parce que en fait, ils n'étaient pas des vrais démocrates, et ils étaient des racistes. Voilà. L'antiracisme commençait la brillante carrière qui se poursuit sous nos yeux. Et donc, la parenthèse merveilleuse de la conversation civique s'est close à ce moment-là. Cette conversation renaîtra-t-elle ? J'espère que votre revue y contribuera.
Alors, vous avez parlé de la liberté que vous définissez, défendez comme une liberté civique, qui n'est pas que pur individualisme. Est-ce que vous seriez prêt tout de même à reconnaître que la France a aujourd'hui besoin d'un regain de liberté, mais peut-être plus large que la seule liberté civique? Je pense notamment à la liberté économique, à la liberté politique, qui sont quand même, il me semble, assez menacées. Je voudrais vous citer un auteur qui, il me semble, vous appréciez, qui est Georges Bernanos, qui écrivait que la pire menace pour la liberté, c'est qu'on désapprenne de l'aimer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive à la France ?
Je ne sais pas si je suis capable de vous suivre sur ce terrain. Alors, il y a un problème, en effet, avec la puissance du politiquement correct, devenu wokisme. Ça, c'est terrible. Et là, effectivement, la liberté est menacée. On le voit très bien avec ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, dont Sylviane Agacinski a notamment été victime, et aussi Caroline Eliashev, quand elle s'inquiète de l'abus que l'on veut faire de la transidentité, d'opérer des mineurs, elle dit non, et elle est accusée de transphobie. Vous voyez, c'est la prolifération des phobies qui m'inquiète, parce qu'on n'est plus dans l'univers de la discussion. On est là pour corriger, en quelque sorte, des règlements psychiatriques. Donc, voilà. Donc, ça, je sens, en effet, à travers ce mouvement, cette intolérance que la liberté intellectuelle est en péril. Sur la liberté économique, écoutez, là, je ne sais pas. Elle existe. Les écarts de situation sont quand même assez importants. Alors évidemment, vous avez des économistes qui sont les chouchous de la bien-pensance, comme Thomas Piketty, qui vous explique que personne ne doit gagner plus de 10 000 euros. Et que donc, voilà, ça c'est grotesque, et en même temps ça prend. Donc ça peut soulever une certaine inquiétude. D'un autre côté, Et je reste un partisan de la redistribution. Voilà pourquoi je me dis, à la suite de l'échec Kolakowski, le grand penseur polonais, conservateur, libéral, socialiste.
J'allais justement vous en parler, puisque vous reprenez cette citation dans Le Cœur Lourd, et je vais me permettre de vous citer. Vous écrivez « Conservateur, j'ai peur pour ce qui existe et je plaide pour une écologie intégrale, sauver la terre, mais aussi la langue, la culture, la transmission, la beauté du monde. L'expérience du XXe siècle m'a appris en outre que dans les communautés humaines, où l'initiative individuelle est bradée et la concurrence anéantie au nom de l'égalité, la stagnation s'installe et le ressentiment sévit. Je suis donc libéral. Et si je suis également socialiste, c'est parce qu'une communauté où le marché régnerait en maître sur tous les secteurs de la vie ne serait pas plus viable au bout du compte que les sociétés où le stimulant du profit a été entièrement rayé du nombre des forces régulatrices de la production. » Vous citez Kolakowski ici. « Si rien dans le capitalisme ne fait exception au capitalisme, poursuivez-vous, s'il n'y a pas de valeur non négociable, la civilisation menace de s'effondrer. » Alors, je me permettrai juste de vous faire une petite objection, parce que la défense du marché par le libéral et aussi par le conservateur n'est pas seulement motivée par la recherche du profit ou celle de l'efficacité, mais par la conviction qu'une véritable économie de marché oblige les individus à assumer le coût de leurs actions et partant à devenir des citoyens responsables. Il me semble que le socialisme conduit au contraire à diluer la responsabilité individuelle dans celle de la collectivité. Alors voilà, je voulais juste vous demander pourquoi vous restez attaché au terme de socialiste. Bon, d'autant plus qu'en France aujourd'hui, le taux de prélèvement obligatoire atteint 44%.
Bien sûr. C'est un taux énorme. Et ce qui me paraît incroyable, dingue, si je puis me permettre cette expression familière, c'est que à gauche, et pas seulement à l'extrême gauche, on parle d'un ordre néolibéral, alors qu'on en est à ce taux énorme de prélèvements obligatoires, des dépenses publiques et des dépenses sociales qui atteignent près de 50% du budget. Donc parler d'ordre néolibéral est une absurdité idéologique, et ça, j'en conviens très bien avec vous. Mais je pense simplement que la catastrophe du socialisme réel n'infirme pas le souci de redistribution, en effet, qu'anime la pensée socialiste. Je vous citerai encore Kolakowski. Il est absurde et hypocrite de conclure qu'une société parfaite et exempte de conflits étant impossible, l'inégalité sous quelque forme qu'elle existe est inévitable et toutes les façons de réaliser un profit sont justifiées. Ce pessimisme anthropologique, typiquement conservateur, qui a conduit à l'étonnante conviction qu'un impôt progressif sur le revenu était abominable et inhumain, est aussi suspect que l'optimisme historique qui a servi de base à l'archipel du Goulag. Voilà pourquoi je tiens à conserver ce terme. Et si vous voulez, il existe quand même une social-démocratie, donc le mot socialisme est conservé, qui n'a rien à voir avec les crimes soviétiques et qui notamment gouverne au Danemark. Et l'on aimerait que tous les gouvernements de droite comme de gauche, notamment en France, s'inspire de l'exemple danois.
Alors, je voulais revenir sur votre libéralisme concernant la liberté d'expression. Il y a 10 ans, vous vous êtes fait violemment rejeter de Nuit debout, où vous étiez venu par curiosité pour dialoguer avec les manifestants. Et cet événement, il me semble, vous a marqué. Quel regard
portez-vous ? C'était quel événement m'a marqué ?
Nuit debout.
MeToo ?
Nuit debout.
Je suis sourd en plus.
Est-ce que je reprends Nuit ma debout. Question ? Je vais reprendre ma question alors.
Non, mais c'est bon.
Mais pour
Nuit
pour
debout, eux. Oui, donc, ça m'a marqué, oui.
Cet événement vous a marqué, oui. Alors quel regard portez-vous 10 ans plus tard sur l'évolution de la gauche ? devenue, semble-t-il, de plus en plus intolérante face à l'altérité idéologique et partant donc très illibérale.
Bah écoutez, les choses se sont aggravées. Je me suis fait évincer de Nuit Debout. J'étais avec ma femme. Et ce mouvement Nuit Debout, mini 68, 68 sous cloche, se déroulait à la République. Place de la République, tout près de la rue où j'avais habité enfant. Et j'en avais marre d'être abreuvé d'images par les médias. Et donc, avec mon épouse, nous avons décidé d'aller voir sur cette place de la République que je connais si bien. Nous sommes entrés, nous avons regardé, et puis on a été approchés par des gens qui nous ont d'abord dit de partir. Et ensuite, nous avons été carrément expulsés par des gens qui nous insultaient, ma femme et moi, ma femme aussi, et qui nous ont craché dessus. C'était impressionnant. Et quelques jours après, ou le lendemain, François Ruffin, interrogé à la télévision, c'était, je crois, au grand journal de Canal+, a demandé, a répondu à des gens qui lui demandaient de commenter cette petite affaire, et il a dit que ma présence était une provocation, et que donc c'était bien fait pour moi. Et il est censé incarner l'alternative civilisée à Jean-Luc Mélenchon. Avec ça, on va loin. Et puis, j'ai subi une agression aussi perturbante. Quelque temps plus tard, c'était les Gilets jaunes. J'avais raccompagné... Non, je sortais de chez ma belle-mère, rue Campagne Première, et je vois des manifestants boulevard Montparnasse. Alors, je m'approche et des manifestants me reconnaissent, des gilets jaunes, et ils s'approchent de moi, très menaçants, et il y en a un qui me dit, brandissant son keffieh, « La France est à nous, c'est nous la France, je ne sais plus, rentre à Tel Aviv. » Et heureusement, il y avait une haie de policiers qui a fait que je n'ai pas été plus gravement agressé. Mais voilà, ce sont deux situations qui menacent de se reproduire. Ça, je le sais, puisque précisément, il n'y a pas de pire accusation aujourd'hui que celle de raciste, et maintenant que celle de sioniste, puisque sioniste veut dire génocidaire, sioniste veut dire nazi, donc tout est possible à tout moment. Et la gauche, aujourd'hui, persiste dans l'intolérance, ou disons une partie majoritaire de la gauche.
Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient aussi de la difficulté que la gauche peut avoir à écouter les autres ? Et il me semble que vous l'avez dit, je ne sais plus dans quel contexte, mais que la liberté d'expression va de pair avec l'obligation pour l'autre d'écouter ce qui est dit. Finalement, c'est ça aussi un monde civilisé. C'est un monde où les uns parlent et les autres écoutent ou au moins font l'effort d'écouter. Comment expliquez-vous qu'on ne veuille plus faire cet effort ?
Alors, c'était Camus qui, dans le même sens que Paul-Louis Landsberg, écrivait dans les années 50 que le démocrate est modeste. Il sait qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin des autres pour en savoir plus. La gauche a tendance à être immodeste puisque, précisément, elle défend les opprimés. Et cette défense des opprimés conduit à l'immodestie. Parce que si elle défend les opprimés, elle fait face à des gens qui ont choisi le camp des oppresseurs. Il y a un manichéisme inhérent à la gauche, dont une partie de la gauche a su se défaire. Mais aujourd'hui, elle retombe dans ce péché originel. Voilà, elle dit j'incarne le parti de la justice. Décision pour une cause imparfaite, disait Landsberg. Être de gauche, c'est choisir une cause parfaite. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai été très spontanément de gauche et je ne comprenais vraiment pas qu'on puisse se dire de droite. C'était une façon... Comment on peut choisir le camp des salauds? Alors, peut-être quand on est capitaliste, etc., mais même quand on n'est pas capitaliste, c'est bizarre, ça me paraissait absolument invraisemblable. Et bon, j'ai peu à peu changé, mais on voit que cette idée reste très, très forte aujourd'hui. La gauche, c'est pour beaucoup encore le parti du bien.
Alors, vous avez beaucoup écrit dans toute votre carrière sur ce qui disparaît. Qu'est-ce qui, au contraire, dans la France d'aujourd'hui, vous donne de l'espoir ?
Alors là, qu'est-ce qui me donne de l'espoir dans la France d'aujourd'hui ? Ce sont des rencontres. Je vois beaucoup de jeunes gens qui résistent à la démagogie dont ils sont l'objet, qui en se cultivant veulent vieillir, qui ne vont pas jusqu'à penser, comme Philippe Muret, que la jeunesse est un naufrage, mais qui, précisément, ne se laissent pas prendre à toutes les flatteries dont ils sont l'objet et qui seront peut-être capables, justement, de regarder en face la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais je pense à Benjamin, la catastrophe, c'est quand les choses suivent leur cours. Et les choses suivent leur cours, et donc il m'arrive de dire, non, je ne suis pas réactionnaire, je suis catastrophé.
Vous pourriez dire aussi, comme Benjamin Disraeli, mais là c'est une paraphrase, que vous préparez toujours au pire, mais vous espérez quand même le meilleur.
Oui, c'est très bien. Oui, bien sûr. Ah oui, et en plus, ça c'est très intéressant ce que vous me dites. On ne peut pas s'installer dans le pire. Et c'est un confort qui est interdit, disait Peggy, c'est pas un penseur particulièrement optimiste, interdit au père de famille. Le père de famille, disait Peggy, est le grand aventurier du monde moderne. Il ne souffre pas simplement de ses propres blessures, il souffre d'autres. Et il est embarqué parce qu'il a des enfants. Et il doit donc se soucier du monde dans lequel vont entrer ses enfants. Donc le pire est un luxe auquel, justement, le fait de laisser d'autres générations vous succéder est un luxe interdit.
Vous m'offrez là une magnifique conclusion à notre débat. Merci beaucoup Alain Finkielkraut.
Merci à vous
d'être venu converser avec moi au micro de Civilisation.
Merci beaucoup Laetitia.